lire comme ça. Voilà. Et donc, j'espère que nos cœurs sont émus maintenant. Nous avons pensé à ce que Jésus a fait pour nous. Et on va continuer notre louange en écoutant à ce que dit Jésus par sa parole. Et on va continuer avec ce thème, mort avec Christ, libéré du péché. Et on va considérer ensemble Romains 6, 1 à 14. Je vous rappelle que nous nous trouvons dans une série d'enseignements sur notre identité en Jésus-Christ. Qui sommes-nous en Jésus-Christ? Nous sommes beaucoup de choses, bénis en Jésus-Christ. Nous sommes justifiés en Jésus-Christ. Nous sommes vivants en Jésus-Christ. Et plusieurs d'autres choses. Et aujourd'hui, on va considérer, nous sommes morts en Jésus-Christ. On va lire le passage. Après, on va le regarder. Mais je vous dis tout de suite que ce n'est pas une étude profonde de ce passage. On n'a pas le temps. C'est trop riche. 14 versets ici, on peut passer toute la journée. Alors, on va juste prendre du temps pour comprendre trois choses qui peuvent nous aider avec notre lutte avec le péché. Lisons ensemble la parole de Dieu, chapitre 6 de la lettre aux Romains. Paul dit, « Que dirons-nous donc ? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, jamais. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car, le verset 7, celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit ainsi vous-même. Regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Sont les paroles de Dieu pour nous aujourd'hui et nous voulons apprendre ce qu'il veut pour nous. Qu'est-ce qu'on va faire ce matin? On va regarder juste cette structure. Il y a une question essentielle. On a une vérité fondamentale, les versets 2 à 10, et trois impératifs, des commandes, primordiaux. D'accord? Ça, c'est ce qu'on va faire ce matin. Une question essentielle, une vérité fondamentale, trois impératifs primordiaux. C'est quoi la question essentielle au verset 1? Regardez dans vos Bibles. Il dit, « Que dirons-nous donc, demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ?» Pourquoi il pose cette question? Parce que Paul termine une section de cette lettre qui est vraiment radicale. Il dit, « Si vous voulez être justifié devant Dieu, que Dieu annonce que vous êtes juste, vous devez venir d'une seule manière, par la foi. Ça va à l'encontre de tout ce que nous pensons en tant qu'humains, les êtres humains. Nous disons, d'accord, par la foi, mais il faut mériter d'être justifié quand même. Est-ce que Dieu peut accepter quelqu'un seulement sur la base de sa foi en Jésus-Christ? Non, on ne peut pas dire ça. Finalement, oui, il faut croire en Jésus. D'accord, il faut croire en Jésus. Mais finalement, quand on se trouve devant Dieu, on sera justifié. Oui, tu as cru et tu as eu quelques œuvres qui méritent la faveur de Dieu. Ça, c'est comment nous pensons en tant qu'humains, en tant qu'êtres humains. La foi est quelque chose. Paul vient de dire non. En fait, à la fin, quand nous nous trouvons devant Dieu, il va nous regarder et il va déclarer juste, basé seulement sur la foi en Jésus-Christ. Et pour nous, ça c'est un peu difficile parce que je pense que nous avons une trop haute opinion de nos œuvres. Nous regardons le fruit dans nos vies, nous disons, c'est pas mal ça, hein? Je suis assez bien, gentil, respectueux, je travaille bien, mais quand on fait la comparaison entre Dieu et nos œuvres, nous voyons avec toute humiliation qu'en fait, nous avons produit 2 ou 3 grains. Et c'est un peu difficile pour nous d'accepter, mais il y a un autre problème, parce que nous voyons tout de suite peut-être les conséquences qui pourraient arriver. Paul, attention, si tu dis qu'on sera justifié à part de toutes nos œuvres, les personnes, les gens, ils vont dire, bon, je ferai ce que je veux. Et on a cette question, le péché et la grâce peuvent-ils vivre ensemble? Et on a quelques exemples de l'histoire. Par exemple, Dieu pardonnera, c'est son métier, c'est Voltaire, français, un bon français. Hein. Mais c'est pas limité au passé et au sceptique. J'avais un ami, chrétien, avec, après quelques années de mariage, 4 enfants, il a dit, moi, je ne veux plus vivre avec cette femme. Il a décidé de la divorcer. On est allé, on a dit, oh, tu peux pas faire ça. Je dis non. Il dit, bon, Dieu me pardonnera. Et on a cette crainte, n'est-ce pas? Si on dit qu'on est justifié selon la foi, seulement, uniquement par la foi, les gens vont vivre comme ça. Bon, Dieu pardonnera. On a cette personne, Monsieur Audin, il dit, j'aime commettre des crimes, Dieu aime les pardonner, le monde est vraiment bien arrangé. Ben, quel esprit là, hein? Et on dit, attention Paul, attention l'Église, si vous dites, d'accord, qu'on est justifié uniquement par la foi, regarde ce qui va arriver. C'est antinomianisme. On fait ce qu'on veut, Dieu pardonnera. D'accord, ça c'est la question essentielle. Est-ce que le péché et la grâce peuvent-ils vivre ensemble dans la cohabitation? Ça marche bien. La grâce a besoin du péché, donc on pêche pour la grâce, pour que la grâce soit glorifiée. Et quelle est la réponse de Paul? Oui? Peut-être? Non! D'accord? Regardez dans vos Bibles, c'est fort! C'est fort! Loin de là, ça c'est pas une traduction littérale. En fait, il dit que cela ne soit jamais. D'accord? Jamais! C'est pas possible! D'accord? On ne peut pas engager dans le péché pour glorifier la grâce de Dieu. Ça ne marche pas. Donc, ça c'est la question. C'est essentiel pour nous. Ayant justifié pour la foi, sommes-nous libres de faire n'importe pour que la grâce de Dieu soit glorifiée? Non. Alors on dit, bon, Michael, ça c'est trop facile. Bon, Paul ne pensait pas que ça c'était trop facile. Ça nous amène, bon, que dirions-nous, demeurions-nous dans le péché? Non. Demeurer indique un choix, juste pour clarifier, ça indique un choix de persévérer, de rester. C'est pas qu'on commet un péché, qu'on pêche une fois. Il parle de la continuation, la persévérance, pardon, dans le péché. Ce chapitre aborde l'idée de la relation entre un croyant et la sphère ou le royaume du péché. On va regarder plus tard. Et pourquoi on dit que c'est demeurer, persévérer, et pas seulement de commettre un péché ici, un péché là-bas? Juste regardons les verbes. Verset 2. Comment vivrions-nous encore dans le péché? Nous marchons en nouveauté de vie. Le verset 6. Le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclave. On est libre du péché, verset 7. Le verset 12, que le péché ne règne pas, car le péché n'aura point de pouvoir. Je pense que tous les versets nous aident à voir que la question ici n'est pas est-ce qu'un chrétien ou une chrétienne peuvent-il commettre un péché? Peuvent-il pécher? La question c'est: est-ce qu'on peut continuer de vivre dans l'esclavage, dans la sphère du péché, dans le royaume du péché, sous le pouvoir du péché? Et ça nous amène à la réponse de Paul, qui est, malgré tous les versets, c'est une vérité fondamentale. Fondamentale. D'abord, la première chose à noter, quand vous lisez ce passage, c'est que quand il utilise le mot péché, il utilise le mot péché au singulier. D'accord? Est-ce qu'il y a une signification à ce point-là? Bien sûr. Sinon, je n'aurais pas dit. Hein. Mais quelle est la signification? Quand il parle du péché singulier, il parle de la domaine du péché, la sphère du péché, une force ou un principe dans la vie. Il ne parle pas des actes singuliers de péché. D'accord? Et pourquoi ça c'est important, on va voir. Mais tout de suite, on peut voir. Nous qui sommes morts au péché, pas au péché avec un X et un S. Tous les péchés, au péché singulier. Nous sommes plus esclaves du péché singulier. Libre du péché, même chose, c'est pour le péché qu'il est mort. Il ne dit pas pour tous les péchés ici. Pourquoi il dit le péché? Parce qu'il parle d'un principe. Que le péché ne règne donc point. Au singulier, c'est pas qu'il dit que tous les péchés dans vos vies ne règnent plus. que le péché ne règne pas. Ne livrez pas vos membres au péché singulier. Pourquoi? Est-ce que Paul a à l'esprit un seul péché? Qu'il faut éviter tous les autres? C'est pas grave. On peut livrer nos membres au péché, mais pas un seul. Non. Et le verset 14. Le péché n'aura point de pouvoir. Pourquoi cet accent sur le singulier? Parce qu'il n'a pas à l'esprit l'idée de tous les péchés particuliers dans nos vies. Pour l'instant, il veut parler d'un principe dans la vie, d'une force qui est le péché. Et il veut que nous soyons, que nous avons la connaissance que la grâce et le péché ne peuvent pas vivre ensemble parce qu'il y avait une mort qui a séparé ces deux choses. Ça, c'est la première chose à noter. Deuxième chose à noter. Ce chapitre affirme que le croyant est mort à la sphère du péché, au principe du péché. Il y a deux grands romans en français qui utilise le thème de la mort pour arriver à être libéré. D'accord? Le premier que j'ai à l'esprit, c'est Les Misérables. D'accord? Jean Valjean, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut faire du bien par rapport à la petite fille, mais la loi le poursuit. Et il a été capturé. Et il a prétendu d'être tué quand il est tombé d'un grand bateau. Et après sa mort prétendue, qu'est-ce qui est arrivé? Il est libre de faire ce qu'il veut. Mais pas vraiment, parce qu'il a fait toujours dans la cachette. Et la loi était toujours là. Mais cette idée qu'il a été libéré par la mort. Le deuxième livre que j'avais à l'esprit, c'est Le Comte de Monte Cristo. Ouais. Lui aussi, il était en prison. Il voulait être libéré. Et pour être libéré, il a prétendu d'être mort. Bon, il s'est trompé un peu. Mais finalement, tout le monde pensait qu'il est mort. Et avec cette liberté, maintenant, il peut faire ce qu'il veut. Il peut donner les compensations à ceux qui ont bien fait et se venger sur ceux qui n'ont pas fait des bonnes choses. Ils avaient la liberté par la mort. Mais dans tous ces cas, la liberté était un peu artificielle. Parce qu'il n'était pas vraiment mort. Et si jamais, comme avec Jean Valjean, quelqu'un savait qu'il est vraiment vivant, tout d'un coup la loi arrive pour le chercher. Mais Paul, il affirme que le croyant est mort à la sphère du péché, au principe du péché, et cette mort est réelle. Cette mort est réelle. Regardons dans vos Bibles, je ne pouvais pas mettre toutes les versets, mais regardez dans vos Bibles, chapitre 6, le verset 2. Nous lisons, nous qui sommes morts au péché. Si vous êtes un chrétien, une chrétienne, ça c'est votre état. Au présent, nous sommes morts au péché. Le verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Maintenant, nous parlons du passé, un point spécifique dans le passé, un acte fait. On est attaché à sa mort. Le verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Le verset 5, nous voyons aussi, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort. Le verset 6, il parle du fait que nous sommes crucifiés avec lui, le vieil homme, l'homme qui a une relation avec ce domaine du péché. Crucifié avec lui, ça parle de la mort. Le verset 8, nous sommes morts. Le verset 9, on ne meurt plus. Le verset 10, il est mort, comme mort au péché. D'accord? On a lu 14 versets. Et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 fois où il affirme que nous sommes morts, nous ne meurs plus et nous sommes morts en Jésus-Christ. Ça, c'est quelque chose de très, très, très important pour nous. Nous sommes morts si nous sommes en Jésus-Christ. Bon, c'est bien qu'on dit en Jésus-Christ, nous sommes vivants. Ouais, ça c'est joyeux. Nous disons, nous sommes fructueux en Jésus-Christ. Ah, c'est joyeux. Nous sommes justifiés. Oui, on aime bien ça, mais on est mort. On arrive à parler des choses qu'on n'aime pas trop, la mort. Qu'est-ce que cela veut dire d'être mort? Avez-vous noté dans vos Bibles, d'accord? Il dit beaucoup de fois, nous sommes morts, mais cela veut dire quoi? Regardez dans vos Bibles, le verset 4. Nous sommes ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ ait ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. D'accord? On a une comparaison. On a la reine, le domaine de la mort et la vie. On est mort et on vit. Donc, d'être mort avec Jésus-Christ, cela veut dire que maintenant, ça c'est du passé. Nous sommes maintenant dans la nouveauté de vie. On continue de regarder. Quelles sont d'autres choses qu'il dit ici dans le passage? Le verset 6. Le vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. De mourir au péché, c'est d'être délivré de l'esclavage du péché. Vous voyez? Si nous continuons, le verset 9, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. On entre toujours dans cette optique. Quand on parle du péché, c'est pas que les actes, mais c'est une puissance, c'est une force, c'est un pouvoir. Quelque chose qui rend esclave et qui domine. Et on continue, il dit le verset 11. Le verset 12, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Il utilise le verbe régner. Donc, avec cette idée, quand il dit que nous sommes morts au péché, cela veut dire que nous sommes délivrés d'un pouvoir, une force qui nous rende esclaves. Est-ce que vous sentez libéré comme ça? Cette semaine, pensons à nos péchés à nous. La colère, l'inquiétude, la convoitise. On peut parler de toute la journée de nos péchés, mais est-ce que vous avez la pensée? Paul, est-ce que tu as raison? Est-ce que tu as raison? Parce que moi, personnellement, je ne me sens pas libéré du pouvoir. Je ne peux pas ne pas m'inquiéter quand les choses arrivent. je ne peux pas ne pas être fâché, en colère. Je ne peux pas ne pas faire ce que je sais, c'est pas bon. Ce sont des pensées qui viennent à l'esprit, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi ce chapitre a été écrit. Donc, nous voyons qu'il veut parler d'un domaine, d'une puissance, d'un principe du péché, et on est mort en ce qui concerne ce principe. La troisième chose, ce chapitre enseigne que la mort au péché vient grâce à notre union avec Christ. C'est pas quelque chose que nous faisons nous-mêmes. Paul n'est pas en train de dire, d'accord, Michael, il faut que tu meurs au péché. Et chaque matin, je dois me lever, je dois faire tout ce que je peux faire pour mourir au péché. Ah mince, aujourd'hui, je n'ai pas arrivé de mourir au péché. C'est pas ce qu'il dit. Parce que, est-ce que vous avez noté combien de fois il a dit, le verset 3 dans vos Bibles, en Jésus-Christ, en sa mort. Le verset 4, avec lui, en sa mort. Une même plante avec lui, crucifié avec lui, nous sommes morts avec Christ, en Jésus-Christ. Il répète, même si nous étions à l'école et notre prof de français corrige nos rédactions, elle va dire, tu as dit trop de fois, c'est trop de répétitions. Mais Paul, il dit non, je vais communiquer quelque chose. Vous êtes morts, mais ce n'est pas par ce que vous avez fait, c'est en Jésus-Christ. Et ça soulève devant nous encore une fois aujourd'hui. Notre relation avec Jésus, c'est la plus importante chose de nos vies. Nous pouvons être des hommes, des femmes de bien, très justes, très corrects, très polis, des bons citoyens. Mais si nous ne sommes pas liés au Jésus-Christ, nous ne sommes pas morts au péché. Mais nous pouvons être les personnes qui luttent avec la colère, l'inquiétude, qui lutte avec la convoitise, qui lutte avec la paresse. Et nous pouvons être en Christ et morts au péché. Merci à Jésus-Christ. C'est lui qui accomplit ces choses. Mais la question c'est pour comment être en Christ, d'accord? Comment pouvons-nous être liés, avoir l'union avec sa crucifixion et sa mort? Il dit ici, ce chapitre affirme que l'union avec Christ se produit à notre baptême en Christ. Cela veut dire quoi? D'accord? Il y a beaucoup de pages qui ont été écrites pour essayer de dire ce qui est le baptême. Et nous lisons dans ces versets, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. » Est-ce qu'il y a quelque chose de magique dans l'eau? Et l'eau, dès qu'on est plongé dans l'eau, l'eau accomplit quelque chose. Non. Le baptême parle de notre, on peut dire, conversion. Quand nous croyons en Jésus, c'est notre union avec Jésus par la foi, parce que à cette époque-là, et comme d'autres lieux dans le monde maintenant, de se faire baptiser, porter des conséquences lourdes. Imaginons que nous étions des Juifs à cette époque-là. Il n'y a qu'un seul Dieu, le Dieu des Juifs. Et moi, j'entends la prédication de Paul et les autres apôtres et je dis, mais Jésus-Christ est le Messie. Et tout d'un coup, j'ai un choix. Si je me fais baptiser selon Jésus-Christ, j'annonce que tout ce que je croyais avant était pas correct. Et je risque d'être expulsé du synagogue. Et aujourd'hui, on dit, d'accord, je vais aller à notre synagogue. C'est pas grave, hein. Mais à cette époque-là, non. C'était l'expulsion de la communauté. Les parents, les oncles, les tantes, les amis, tous les autres, ils ont dit, ah, on peut pas s'associer avec cette personne maintenant. Et quand une telle personne se fait baptiser, c'est une déclaration forte, je crois. Je entre en Jésus-Christ. Et la question pour chacun de nous aujourd'hui, c'est, est-ce que nous sommes en Jésus-Christ par la foi? Sommes-nous baptisés en Christ par la foi? Avons-nous nous tourné de notre propre façon de vivre, de notre rébellion qui disait « c'est moi qui ai le roi, la reine de ma vie ». Sinon, vous n'êtes pas mort au péché. Et le péché est toujours dans la domination sur vous. Et vous dites, mais moi, je suis assez gentil, d'accord? D'accord, comprenez. Quand on dit qu'on est sous le péché, aussi il est, c'est pas à dire qu'on fait tous les péchés. Satan, il n'est pas inquiet par rapport aux personnes qui sont très très morales, qui font pas beaucoup de péchés, mais qui ne suivent pas Jésus-Christ. En fait, il est très content parce qu'ils sont auto-justifiants. Voilà, je suis du bien. J'ai pas besoin. Voilà, Satan, il est content. Est-ce que nous sommes libérés? Est-ce que vous êtes libérés du péché? Le troisième point. Trois impératifs primordiaux. Je ne sais pas si vous avez noté, hein, quand vous avez lu le passage, il y a une question. Après, il y a beaucoup d'indicatifs, beaucoup d'informations. Il parle de ce qui est réel. Et au verset 11, il a changé un peu parce que maintenant il va donner les commandements, les impératifs. Première, le verset 11, il dit, regardez-vous comme morts au péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. J'ai dit comme ça, vivez dans la réalité. Vivez dans la réalité. Il faut pas se tromper ici, parce que il faut pas dire que maintenant on envisage ce qu'on veut être la réalité pour arriver d'avoir une telle réalité, d'accord? Ça c'est un peu bizarre. Aujourd'hui, si je travaille vraiment bien et j'envisage que je suis un footballeur pour le PSG. Donc, ça ne va pas arriver. Jamais. D'accord? Ah bon? Ouais, je sais que, hein, vous voyez, moi, ça ne peut pas arriver. Je suis pas fait pour être un footballeur professionnel. D'accord? Et il y a des personnes qui disent beaucoup de choses maintenant dans le christianisme. Il faut envisager d'être riche et on va y arriver. D'avoir des maisons, des voitures, la bonne santé, hein? C'est pas ça ce qu'il dit ici. Ce qu'il dit ici, c'est, il y a une réalité qui existe, il faut vivre selon cette réalité. D'accord ? Et c'est quoi cette réalité ? Si vous êtes en Christ, vous êtes mort au péché. Quelle bonne nouvelle pour les personnes qui luttent jour après jour après jour avec le péché. Et la pensée est là, n'est-ce pas ? Je peux pas. Je n'ai pas la puissance pour dire non. Mes frères et mes sœurs, il y a une réalité quand Jésus-Christ vous êtes affranchi. Vous êtes affranchi. Bon, il ne faut pas se tromper non plus. Les personnes qui disent la réalité, c'est que on est entièrement libéré. Il y a un homme, c'est un Américain, qui s'appelle Crefto Dollar, d'accord? La seule raison que je mentionne son nom, c'est que j'ai cherché hier soir, parfois être libéré du péché, et son site était presque le premier qui est sorti. Il dit qu'il n'y a plus dans les chrétiens la chair. On peut être parfait dans le monde. On peut vivre sans péché. Cela va à l'encontre de tout ce que dit la Bible. Nous péchons, nous avons besoin d'être pardonnés, de demander pardon à Jean. Nous avons besoin de mettre à côté le vieil homme, Paul en Éphésiens. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour lutter contre la chair, Éphésiens chapitre 5. Donc, mais nous ne sommes pas des pauvres qui ne peuvent pas résister, parce que nous sommes morts en Jésus-Christ au péché. Il faut vivre dans la réalité. Le mot regarder, c'est estimer, juger. C'est utilisé aussi au chapitre 4 pour imputer. Il y a cette idée que même si je peux pas, j'ai pas le sentiment, d'accord, c'est pas grave. La vérité n'est pas changée par le sentiment. Ok? Vivez dans la réalité. Ça, c'est ce qu'il faut faire si on est en Christ. Deuxième impératif, les versets 13 et 14. D'accord? Il dit, dans vos Bibles, vous pouvez regarder, je fais pas l'invention ici, j'espère. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Donc, j'ai résumé avec ces mots. Opposez-vous à la tentation du péché. Pourquoi nous rendons nos membres comme des instruments d'iniquité? Parce qu'il y a une tentation qui arrive. N'est-ce pas? Quelque chose qui arrive de dedans, notre convoitise, quelque chose dehors. Mais il y a de la tentation, soit de la chair, du Satan, du monde. Et ce qu'il dit ici, c'est opposez-vous. Faites la résistance. Que le péché ne règne point dans vos corps mortels et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché. Et quels membres? C'est pas que la main, les pieds, les yeux, les oreilles. C'est aussi nos pensées, nos propres passions. Il faut faire la résistance. Bon, on est en France, c'est presque naturel de faire la résistance à tous, sauf le péché. N'est-ce pas? Non, je veux. C'est la même chose aux États-Unis, on le fait un peu différemment. Mais en France, hein, il faut faire la résistance. Nous sommes en Christ, nous devons faire la résistance. Mais comment? D'accord? Parfois, on doit juste tenir ferme. Mais parfois, il faut faire d'autres choses. Parfois, il faut travailler sur la prévention. Paul, qu'est-ce qu'il a dit? Je traite durement mon corps, je le maîtrise sévèrement. Et pourquoi? Parce que maintenant, il y a un péché dans sa vie. Non, de peur qu'après avoir proclamé l'évangile aux autres, je ne me trouve moi-même disqualifié. C'est la prévention. Et je vous demande, et je demande à moi-même, je me suis demandé déjà, qu'est-ce qu'on fait pour la prévention du péché? Pensons à ce que nous faisons. Par exemple, les enfants. Est-ce que vous êtes en train de lutter contre le péché en disant, il faut faire la prévention? Qu'est-ce que vous mettez dans vos esprits, dans vos cerveaux, dans vos cœurs, par la lecture, par la musique, par l'ordinateur, la télévision, les films, les conversations, les adultes? Qu'est-ce que nous faisons, nous? Chaque fois que ça arrive, je tombe. D'accord, je comprends ça. Mais qu'est-ce que je fais pour ne pas être là chaque fois? C'est la prévention. On doit lutter. Deuxième chose, la fuite. Ce n'est pas honteux de fuir. D'accord? On ne regarde pas Joseph et on dit, Joseph, tu aurais dû être plus fort que ça. Non, on dit, c'est un homme qui a bien fait et il est allé pour s'enfuir. Par exemple, 1 Corinthiens 6, 18, fuyez la débauche. Fuyez. Aujourd'hui, notre société dit non, regardez la débauche. Divertissez-vous avec la débauche. Écoutez la débauche. Fuis les passions de la jeunesse. C'est pas honteux de dire, moi, je quitte. Je peux pas rester là. C'est trop de tentations. Je préfère briser le pouvoir du péché en fuyant que de rester et essayer d'être fort. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Nous, moi, vous. Mais le pouvoir, c'est là, dans la mort de Jésus-Christ et notre union avec Jésus. Ce n'est pas ce qu'il faut produire en nous-mêmes. Le troisième impératif primordial, soumettez-vous au service de Dieu. Il dit, présentez vos membres à Dieu. Vous voyez l'image? Dieu est là, et on arrive, et on dit, tout ce qu'on a, Dieu, c'est pour toi. C'est pas beaucoup, peut-être, mais c'est pour toi. Prends mes yeux, prends mes mains, prends mon temps, prends mon argent. Utilise tout pour toi-même. On doit vivre dans la réalité. Si nous sommes en Christ, ça c'est dans le passé. On est mort. Le pouvoir est brisé. Il est possible de résister. Il faut résister la tentation. Et il faut faire plus que ça. Il faut résister et soumettre, se donner, présenter le membre à Dieu, le verset 14. Il dit, donnez vous-même à Dieu comme étant vivant, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Ça, c'est notre privilège en Jésus-Christ. Nous sommes morts, mais nous sommes morts pour être délivrés, libérés du pouvoir du péché.